Bonjour à tous. Donc, je suis Franck Sicard. Je suis du laboratoire Gescope, donc à Grenoble. Je vais vous présenter mon papier qui s'intitule Cyberdéfense des systèmes de contrôle commun industriel, une approche par filtre basée sur la distance aux états critiques pour la sécurisation face aux cyberattaques. Ces travaux ont été dirigés par Examaï et Jean-Marie Floss, et en partenariat également avec la DGA Maîtrise de l'information, avec Michel Cussuc et Frédéric Majorzic. Donc, je vous propose le plan suivant pour cette présentation. Dans un premier temps, je vais vous représenter ce que sont les systèmes de contrôle commande. Puis, j'aborderai les enjeux et les problématiques liées à la cybersécurité de ces systèmes. Je vous exposerai ensuite mon approche, une application sur un exemple, et enfin, je conclurai. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système de contrôle commande? Donc j'ai pris la définition de la NIST 882 révision 2. J'aurais pu prendre la définition donnée par l'ANSSI ou par l'ENISA. C'est un ensemble d'éléments de commande qui agissent ensemble pour arriver à satisfaire un objectif industriel. Ça renvoie à la définition de système cyberphysique, donc où c'est un ensemble d'éléments de commande qui communiquent ensemble sur un réseau pour venir agir physiquement sur un système. Ces ICS, donc système de contrôle commande, Industrial Control System en anglais, ont été designés pour assurer productivité et sécurité et sûreté de fonctionnement, mais les fonctions de sécurité n'ont pas été prises en compte. Ces systèmes sont utilisés dans de nombreux domaines, la production et la distribution de l'énergie, l'électricité, l'eau, le gaz. Le traitement de l'eau, les industries chimiques et manufacturières, et les systèmes de transport. Ce sont souvent des infrastructures dites critiques qui sont fortement interconnectées et mutuellement dépendantes. Alors maintenant, je vous ai parlé de ces systèmes. Il faut trouver un moyen de les représenter. Et dans le papier et dans cette présentation, j'ai choisi la norme CIM pour Computer Integrated Manufacturing, qui en fait représente ces systèmes de contrôle commande sous forme de couches. Donc tout en bas de la pyramide CIM, on va retrouver le flux de production. Donc en fait, c'est le système, il est à un état initial, et par le biais de l'ICS, il passe à un état final. Donc un produit initial, un état final. On peut prendre l'exemple d'une température, par exemple, dans un bâtiment, où l'état initial est 20 degrés, et l'état final, après chauffage, est de 22 degrés. Ce flux de production, il y a la partie opérative qui va venir agir dessus. Donc, la partie opérative est composée à la fois d'actionneurs qui agissent sur le flux de production et de capteurs qui font remonter de la donnée. Et l'ensemble partie opérative et flux de production définit le système physique. Cette partie opérative communique avec la partie commande, dont l'élément principal est l'automate. Cet automate programmable industriel a un cycle de fonctionnement qui lui est propre, notamment lecture des entrées, donc voir les informations qui sont remontées par les capteurs, traitement logique, donc le programme automate qu'on a programmé à l'intérieur, écriture des sorties, donc les actions à mener sur le système. Cet automate communique également avec un niveau supérieur qui est appelé supervision ou SCADA, et donc ça donne aux opérateurs une image en temps réel du procédé. Les opérateurs peuvent en même temps décider des consignes à modifier ou des ordres à envoyer au système physique. Maintenant, je vais passer à la partie enjeux et problématiques liées à la cybersécurité. Donc, tout d'abord avec un historique de quelques attaques. Donc, dans les années, j'ai emprunté que les principales attaques. Dans les années 2000, c'est plus des attaques par opportunité, comme Marushi District, où en fait c'est un ancien employé qui a utilisé ses identifiants pour venir se connecter sur l'ICS et déverser des eaux usées dans l'environnement. En 2003 et 2005, c'est des dommages collatéraux liés à des attaques de vers informatique, donc Slammer ou Zotob. En 2007, c'est un projet Aurora qui a été développé par un laboratoire de recherche, et donc on y voit à travers le réseau électrique, le smart grid, on peut venir attaquer des équipements physiques. Entre 2009 et 2011, c'est Stuxnet, c'est l'attaque de référence sur les ICS. Donc pour résumer rapidement Stuxnet, c'est un verre qui a été envoyé à un employé de l'usine de Natanz en Iran par les techniques de social engineering. L'employé a ensuite mis ce verre sur une clé USB qu'il a utilisée sur son poste de supervision, son poste de travail. À travers le réseau bureautique puis industriel, le verre a ciblé les ordinateurs équipés de StepSet, le logiciel qui sert à programmer les automates Siemens. Ensuite, Stuxnet a attaqué les automates. Pour venir, une fois dans l'automate, il a appris quel actionneur était présent sur le système pour venir ensuite modifier les séquences de commandes et dégrader l'ICS, dégrader physiquement les moteurs. Et dans le même temps, la remontée d'informations faite au niveau 2 était erronée. Pour les opérateurs, ils ne voyaient pas la dégradation qui était faite sur le système. En 2014 et en 2015, on retrouve ce même mode opératoire sur une attaque en Allemagne et en Ukraine, où pareil, on vient faire du social engineering. Une fois qu'on infecte le réseau bureautique, on vient infecter le réseau industriel pour ensuite mener une attaque qui dégrade la partie opérative. En 2016-2017, c'est plutôt des ransomware qui ont affecté pour leur part le niveau 2, notamment avec WannaCry et Petya, qui ont entraîné l'arrêt des lignes de production de Renault. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est où sont en fait les vulnérabilités dans cette architecture de contrôle commande, vu que des attaques ont été possibles. Donc, elles sont déjà présentes au niveau 0, sur les actionneurs et les capteurs, notamment si on considère le cas de l'industrie 4.0, l'industrie connectée. Elles sont également présentes au niveau communication, avec l'introduction, par exemple, du protocole TCP/IP. Sur l'automate, sur de multiples points, la configuration, les lois de commande. Sur le niveau communication avec la partie SCADA, et même la partie SCADA, vu que c'est un niveau où on va retrouver des serveurs et des ordinateurs, donc un niveau assez informatisé. Donc ces vulnérabilités laissent des surfaces d'attaque possibles pour les hackers. Mais ce n'est pas tout, c'est des systèmes qui sont également soumis à des défaillances. Donc ça c'est plutôt bien détaillé dans la littérature, on va retrouver des défaillances matérielles, le facteur humain, des défaillances sur la calibration des lois de commande, ainsi de suite. Donc on pourrait se dire que les techniques de ce problème de cybersécurité est plutôt bien appréhendé dans le monde de l'informatique, des techniques pour sécuriser ces systèmes, les systèmes d'information existent. Est-ce qu'on ne pourrait pas employer les mêmes techniques? La réponse est plutôt non, parce que les ICS ont des spécificités. Tout d'abord, ils contrôlent des systèmes physiques. Les contraintes sont également différentes. C'est-à-dire que dans les ICS, on va surtout chercher la disponibilité pour agir au plus rapidement en temps réel sur le système en cas de défaillance. L'environnement dans lequel ces systèmes opèrent sont différents. Les protocoles de communication ne sont pas forcément standardisés. Concernant la politique de maintenance, elle est également différente, c'est-à-dire que les mises à jour au niveau logiciel, au niveau firmware, ne sont pas forcément faites, et lorsqu'elles sont faites, elles ne sont pas forcément déployées sur ces systèmes-là, parce que ça provoque des arrêts de production. Et également, la durée de vie de ces systèmes est différente, et plus longue. Donc, les solutions qui viennent de l'IT ne sont pas forcément directement applicables sur les ICS. Donc, sur le papier que je suis en train de vous présenter, la question principale a été comment est-ce qu'on peut protéger les données qui sont échangées entre la partie commande et la partie opérative pour s'assurer de leur validité au moment de les appliquer sur le système physique. Le premier objectif, ça va être de stopper tout ordre qui entraîne une dégradation de l'état du système. On va également chercher, autant que faire se peut, à anticiper les éventuelles attaques. Et dans le cas d'une détection, arriver à discriminer entre une défaillance et une attaque dans un milieu, comme je l'ai dit, qui est soumis à des défaillances. On se concentrera notamment sur les couches basses, donc le niveau 0 et le niveau 1, en prenant en compte la connaissance métier qu'il y a sur ces ICS, Et la solution proposée prendra pour hypothèse que les défenses précédentes, donc du niveau 2, du niveau 1, ont été franchies. C'est donc le dernier rempart pour éviter une attaque. Donc maintenant, je vais passer à la partie qui présente mon approche. Donc, il y a eu une réflexion sur le côté, les techniques qu'il y a en sécurité. Donc, il y a différentes solutions qui existent, la cryptographie, les firewalls, les VPN, les IDS. J'ai sélectionné les IDS, les Intrusion Detection System, parce qu'ils collent plus aux spécificités qu'on peut retrouver sur les ICS. Donc, sur un Intrusion Detection System, on va venir récupérer une donnée, on va venir l'analyser, donc on va venir récupérer la donnée avec des sondes déployées dans le réseau, on va venir analyser ces données par rapport à un ensemble de règles qui définissent une politique du réseau, et des alertes peuvent ensuite être renvoyées sur les opérateurs. Sur ces IDS, des travaux intéressants ont été faits, notamment par Carcano et Fovino, sur la notion de distance des états critiques. Cependant, il y a eu aussi une autre approche, c'est l'approche plus safety. Parce qu'en fait, ce problème de détection de cyberattaque, il ressemble fortement au problème de détection que l'on a dans les approches de surveillance, et notamment avec l'approche filtre. Donc cette approche filtre, en fait, c'est un bloc de vérification qui est présent entre la partie commande et la partie opérative, et qui vient en fait vérifier les ordres qui sont envoyés à la partie opérative avec un modèle. Donc le fil de commande vérifie les ordres envoyés de la partie commande à la partie opérative, et un fil de compte-rendu vérifie justement les informations qui sont envoyées par cette partie opérative à la partie commande. Si l'ordre ou le compte-rendu ne correspond pas au modèle qui est fait, il peut être éventuellement bloqué. Et les deux filtres commande et compte-rendu communiquent entre eux. Donc j'ai hybridé ces deux approches, et pour les adapter notamment au contexte cyber. Donc j'ai donc deux blocs de vérification, un filtre de contrôle, un filtre de compte-rendu, qui sont sortis de l'automate. Le filtre de commande, lui, est placé au plus proche des organes de commande. Donc juste après la partie réseau et juste avant d'aller taper les actionneurs. Et la partie filtre de compte-rendu est placée juste avant l'automate. Ces filtres sont considérés inattaquables sur le plan hardware et communiquent entre eux sur un réseau qui est différent du réseau industriel qui est utilisé pour communiquer. Et cette intégration des filtres dans l'architecture permet de garantir que les ordres qui sont envoyés aux actionneurs ne vont pas mettre en danger le système physique. Donc j'ai parlé de l'approche, j'ai parlé des deux approches qui ont été mises en jeu, de l'implantation physique des filtres. Maintenant je vais parler de la méthodologie. Donc pour créer ces filtres, la première étape, c'est l'étape d'analyse de risque dans le système, après une étape d'exploration des états, et une étape où on implémente les mécanismes de détection. Donc je vais revenir sur chacune de ces étapes. La première, c'est l'analyse de risque. Donc le but premier, ça va être de définir les paramètres qui sont nécessaires à la bonne modélisation. Donc il faut repérer les paramètres, il ne faut pas en oublier, parce que si on en oublie, on peut mal caractériser le système, et donc on peut ne pas détecter certaines attaques. Et il faut également ne pas en mettre trop, sinon on va avoir une explosion combinatoire. Une fois que l'on a tous ces paramètres, on va définir les différents états du système. Donc sur tous les états possibles, on va avoir les états qui vont être inatteignables, les états atteignables également. Dans ces états atteignables, on va distinguer trois sous-catégories, les états optimaux, qui suivent la loi de commande, les états interdits, qui ne suivent pas la loi de commande et en plus mettent en danger le système, et les états dangereux qui sont entre ces deux sous-groupes. Et donc on va venir chercher à identifier des contextes. Donc un contexte, c'est une paire, c'est un couple état-action, où on est sûr que ça conduit vers un état interdit. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape d'exploration des états. Donc on va utiliser un automate fini déterministe. On va partir de l'état initial et on va venir appliquer chacune des actions possibles sur le système. Donc avant, il va falloir caractériser chacune de ces actions, l'effet que ça a d'un état, de l'état initial à l'état d'après. Donc une fois qu'on applique l'ensemble de ces actions, on peut tomber sur des états qu'on n'a pas rencontrés. En ce moment-là, on les garde en mémoire. Si on tombe sur des états interdits, alors on vient identifier le couple état-action qui mène vers ces états interdits. Ça va donc définir notre contexte. Une fois qu'on a terminé cette première étape, pour chaque état fils que l'on a rencontré, on va venir réappliquer toutes les actions possibles. Donc là, soit on va retomber sur des états déjà rencontrés, donc on va arrêter l'exploration, soit on va tomber sur des états interdits, donc on va venir identifier le couple état-action. Et sinon, ben on continue on garde en mémoire les états pour l'itération suivante. On peut tomber aussi sur le cas où deux états sont identiques. À ce moment-là, on enlève l'état, donc en l'occurrence là c'était S3 secondes, on peut l'enlever pour la prochaine exploration des états. Une fois que l'on a identifié tous les états possibles, on a donc toutes les conditions pour accéder à la dernière étape, qui est les mécanismes de détection qui sont implantés dans les filtres. Donc le premier, c'est le plus simple, c'est la détection immédiate de contexte. Donc dès que le filtre de commande va avoir passé une action où on est sûr que dans l'état où est le système, ça mène vers un état interdit, on va venir bloquer l'action. Il y a également la notion de distance qui a été développée. Donc la notion de distance entre l'état courant et l'état interdit. Et la notion de trajectoire. Donc sur ça, on se sert de la distance au sens de Carcano pour les états continus. Et on a développé la notion de plus court chemin aux états critiques pour les systèmes à événements discrets. Donc, si je reprends le schéma de la slide précédente, on vient repérer, en fait, pour chaque état, le nombre d'actions minimum à appliquer pour tomber dans un état interdit. Et donc ça nous définit notre distance la plus courte à un état critique. On vient faire ça pour chaque état et pour chaque état interdit que l'on a repéré dans notre analyse de risque. Et enfin, on a un troisième mode, troisième mécanisme de détection, qui est lorsque l'on a détecté une anomalie, on vient mettre en repli éventuellement le système. Donc par exemple, si on a un système de cuve, ça peut être par exemple ramener le système dans un état initial, donc vidanger les cuves pour mettre en repli l'installation. Maintenant, je vais passer à la partie application. Donc sur l'exemple d'application, c'est le même qu'il y a dans le papier. Donc c'est 5 cuves. 3 cuves T1, T2 et T3 qui servent à remplir 2 cuves intermédiaires T4 et T5. Donc la loi de commande est la suivante. On va venir ouvrir V1 pour venir remplir la cuve T4, pour venir remplir la cuve T4 jusqu'au niveau H1, puis ensuite ouvrir la vanne V2 pour la remplir jusqu'au niveau H2. À ce moment-là, la loi de commande prévoit l'ouverture de la vanne V3. On vient du coup déverser le contenu de T4 dans T5 en ouvrant V3, puis V3 et V4 jusqu'au niveau H3. Et ensuite, on vient ouvrir la vanne V5 pour venir vidanger la cuve. Donc sur cet exemple, on vient mener une analyse de risque. Donc on identifie deux états interdits. Le premier, c'est le débordement de la cuve T4 et le débordement de la cuve T5. Dans la cuve T4, le débordement est atteint lorsqu'on est au capteur très haut et qu'on ouvre la vanne V1 ou V2, ou lorsqu'on est au niveau intermédiaire et qu'on vient ouvrir la vanne V1 et V2. C'est le même principe sur l'état interdit de T5, de débordement de T5. C'est lorsqu'on est au capteur très haut qu'on vient ouvrir V1 ou V2, ou qu'on est au capteur intermédiaire et qu'on vient ouvrir V3 et V4. On vient définir nos états. Donc les états, ça va être l'état des capteurs et des actionneurs. Et on vient faire notre étape d'exploration des états. Donc la résolution, enfin, l'exploration de tous ces états prend 35 secondes. On obtient un certain nombre d'états, les états atteignables, ceux qui sont inatteignables. Dans ceux qui sont atteignables, combien sont optimaux, combien sont dangereux, combien sont interdits. Et notre ensemble de contextes. Donc 2580 dans cet exemple-là. Donc j'ai prévu quelques exemples d'applications, quelques scénarios d'attaque. Donc le premier, c'est de remplacer l'ouverture, enfin la vidange de T4 par ouverture de V3, par l'ouverture de V1 et V2. Donc, ça entraîne le remplissage, ça entraîne le remplissage de T4, encore une fois, et donc le débordement. Donc, la figure qui vous est présentée, c'est ce que voit la trajectoire qui est tracée par le filtre de commande. Donc, on peut voir sur la première figure que la distance, ça trace la distance entre l'ordre de la séquence à l'autre commande et l'ordre qui a effectivement envoyé par l'automate. On voit que avant l'attaque, il est tout le temps égal à 0. Ça veut dire que l'ordre envoyé respecte le séquencement qui est prévu par l'autre commande. Et lorsque l'attaque a lieu, donc lorsque l'ouverture de V3 est remplacée par l'ouverture de V1, la distance passe à 1. Donc ça veut dire que l'on ne respecte plus la loi de commande. La figure qui est juste au-dessus, c'est l'état qui est attendu, donc l'état optimal, qui a été obtenu lors de notre simulation. Et on voit que cet état passe à 1. Donc ça veut dire qu'on ne respecte plus, on n'est plus dans l'évolution normale du système. Et la figure qui est tout en bas, c'est la figure qui représente la distance au plus court chemin aux états critiques. Et on voit qu'elle passe à 0. Donc lorsqu'elle passe à 0, c'est que l'on a détecté un contexte qui mène vers un état critique. Et donc, l'ordre est bloqué. Donc là, en l'occurrence, l'ordre d'ouverture de V1 aurait été bloqué par notre filtre. Le deuxième scénario, c'est on est au tout début de la séquence de commande. Au lieu d'envoyer une ordre d'ouverture de V1, on vient ouvrir V1 et V2, ce qui entraîne le remplissage jusqu'au capteur H2. Donc là, on voit que sur notre graphique qui est tout en bas, sur notre figure qui est tout en bas, la distance n'est pas égale à 0. En effet, on n'a pas atteint un état interdit. Ceci dit, on voit avec les figures par rapport aux ordres optimaux et aux états optimaux qu'on ne suit pas le bon séquencement de la loi de commande et qu'on n'a pas le bon état par rapport à l'état optimal. Donc ça se voit parce que le pic, on a un pic égal à 1. C'était les figures qui est vue par le filtre de commande. Là, c'est une image du filtre de compte rendu et on voit également qui détecte que l'ordre que l'état qui est reçu par ce filtre ne correspond pas à l'état optimal, à l'état attendu par les modèles. Un dernier scénario, c'est lorsqu'on ne vient plus agir sur sa partie communication sur la commande, mais plus sur la remontée d'informations. Donc on vient en fait compromettre les informations de H1 et de H2. Donc dès que ces capteurs passent à 1, l'attaquant met ses capteurs à 0. Donc on vient ouvrir V1, pareil, c'est le début de la séquence, on vient ouvrir V1, on remplit jusqu'à H0, on remplit également jusqu'à H1, sauf que l'attaquant renvoie 0. Donc lorsque l'automate reçoit ces informations, dans sa logique, il va continuer à ouvrir V1 pour remplir la cuve T4. L'attaquant, donc physiquement, on arrive au capteur H2, mais l'attaquant renvoie encore que H1 n'est toujours pas activé. Donc l'automate va renvoyer un ordre d'ouverture de V1, et là c'est dangereux parce que on arrive dans un état de débordement. Donc si on arrive sur les figures, si on trace les figures qui sont de distance et de trajectoire qui sont contenues dans les filtres, on voit que sur le filtre, donc la figure de gauche de compte rendu, lui, il vient repérer que l'état qui est reçu ne correspond pas à l'état que l'on devrait obtenir après un ordre de remplissage. Cependant, le filtre de compte rendu, il ne bloque pas la remontée d'informations. Il laisse passer, il communique juste au filtre de commande qu'il y a un problème. Le filtre de commande se base à la fois sur les informations reçues de ce filtre de compte rendu et sur les ordres de l'automate. L'ordre de l'automate, c'est d'ouvrir la vanne V1. Le contexte mène pas, c'est pas un contexte qui est identifié, donc il continue d'ouvrir la vanne V1. Là où ça vient bloquer, c'est lorsque le filtre de compte rendu vient dire attention, là, suivant le modèle que j'ai eu, j'arrive potentiellement à un état de débordement. Et là, le filtre de commande reprend la main en disant je bloque si j'ai de nouveau un ordre d'ouverture de vanne. Donc, je vais passer maintenant à la partie conclusion et perspective. Donc, en conclusion, dans ce papier, on a fait une étude des vulnérabilités qui sont présentes sur NICS, sur l'architecture matérielle de NICS. On a eu une approche qui est basée sur des modèles qui se concentrent sur le niveau 1 et le niveau 0 et qui vérifient les données qui sont échangées entre la partie commande et la partie opérative. On détecte les contextes et on détecte également des déviations pour essayer d'anticiper des attaques. Lorsqu'une détection a été faite, on vient discriminer entre une attaque et une défaillance, et une possible défaillance pour essayer de donner d'où vient cette anomalie. Dans les perspectives, il y en a une qui paraît plus ou moins évidente, c'est que là on s'est concentré sur des contraintes combinatoires et de séquencement. On pourrait aussi se concentrer, enfin rajouter la partie temporelle. On pourrait également réfléchir sur la localisation des filtres, notamment pour la détection sur le data spoofing sur les capteurs. Et également, je vous ai présenté que des résultats de simulation. La partie test sur plateforme réelle paraît également une perspective intéressante. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette slide. Une des idées pour le filtre de compte rendu, c'est de le rabaisser, de le mettre également au plus proche des capteurs pour venir vraiment sécuriser la partie opérative. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci Franck. Alors, la parole est à Bassam. Il y a une question au devant. Je crois qu'il va y avoir une collision là.
Oui, s'il vous plaît, comment savez-vous que votre modèle est complet par rapport aux possibles attaques? Si j'ai bien compris, vous faites une analyse de risque, après vous faites un modèle sous la forme d'une machine d'état fini, où vous avez des états dangereux, interdits et les optimales, et après vous prenez quelques attaques et vous arrivez dans ces états interdits ou dangereux. Alors donc, il pourrait se passer qu'il y a des autres attaques que vous n'avez pas prévues et qui ne correspondent pas à votre modèle. Peut-être il serait mieux de faire un modèle qui décrit que les états optimaux. Alors tout ce qui ne rentre pas dans ce modèle-là, vous considérez que c'est quelque chose qui indique une attaque ou une anomalie. Ça c'est ma première question. Et la deuxième, vous avez dit que vous êtes capable, et ça c'est très intéressant, de différencier entre une attaque et une anomalie. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ceci? Merci.
Alors, ma réponse va être en deux temps, du coup, par rapport à votre première question. Forcément, l'étape essentielle, c'est l'analyse de risque, et c'est de définir, en fait, tous les états interdits. Donc, tous les états où physiquement, on ne veut pas que le système soit. Enfin, aille. Sur ça, on se base sur des méthodes d'analyse de risque qui sont connues depuis, quand même, quelques années, et qui sont bien détaillées dans la littérature. Moi, je ne fais que reprendre ce travail. Après, dans les hypothèses, j'ai sans doute oublié d'expliquer, c'est que je me base sur le fait que l'attaquant va essayer de dégrader, d'attaquer physiquement le système. Je ne vais pas m'intéresser à si par exemple l'attaquant essaye de s'introduire dans le système pour venir récupérer des données ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment m'intéresser à quel chemin d'attaque peut prendre l'attaquant pour venir dégrader le système. Donc là, faire un débordement sur des cuves, quelque chose comme ça. Et la deuxième question, c'était sur la discrimination entre défaillance et une cyberattaque. Alors en fait, on se base sur la notion de trajectoire. Donc la notion de trajectoire, c'est l'évolution au cours du temps de la distance. Et on vient notamment intercorréler entre l'évolution aux états critiques, l'évolution des ordres émis par rapport aux ordres optimaux, et l'évolution au plus court de l'état courant par rapport au plus court chemin vers un état critique. En fait, c'est l'intercorrélation de ces trois données qui nous permet de dire si c'est une cyberattaque, si c'est une défaillance, ou si on ne sait pas distinguer entre les deux, ce qui est une possibilité. Quelque chose qui a été fait aussi en plus, c'est que on peut également inclure des méthodes d'apprentissage C'est-à-dire qu'un défaut, c'est quelque chose que la première fois, on peut éventuellement être surpris si on le reçoit. Par contre, la deuxième fois, on doit être capable de voir si on a déjà rencontré cet état-là ou pas. Donc c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre avec les filtres au cours du temps.
Une autre question sur la droite, là.
Tout ce qui est règle de corrélation, on pourrait, quand les gens ont compris que ça ressemble à un SIEM, donc on va faire exploser la problématique de... Enfin, on va vite comprendre comment créer des filtres. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que globalement, vous doublez le passage de câbles et le nombre d'équipements. Donc sur une grosse usine à terre, on pourrait envisager cette solution-là. Maintenant, sur l'embarqué, c'est beaucoup plus problématique, et notamment aussi associé aux problématiques de consommation électrique. Est-ce que vous avez envisagé de mutualiser, de rationaliser ces filtres-là, et peut-être de le mettre comme un pare-feu personnel sur un équipement, de mutualiser pour pouvoir gagner sur de l'embarqué?
Alors, pour le moment, je ne me suis pas intéressé à ces problématiques sur les systèmes embarqués. Je me suis concentré uniquement sur des systèmes industriels, et même pour être plus précis, sur la partie la plus critique d'un système industriel. Je n'ai pas étudié le cas, ce cas-là en particulier. Donc, je pense que j'ai des éléments, mais pas forcément.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Non.
Oui, une question par rapport à un exemple concret dont vous parliez, c'était Stuxnet. Je ne vois pas en fait comment vous pourriez lutter contre ce genre d'attaque. Parce que si j'ai bien compris ce qui s'est passé, les capteurs en fait ont été modifiés, ils ne donnaient pas le bon état. Donc finalement, comme vous vous basez sur les états, comment vous verriez ce genre de choses? Parce que typiquement, là, si on reprend ce que vous faisiez, on ne pourrait pas voir que la valve elle est ouverte, puisqu'elle dirait qu'elle est fermée, ou vice-versa. La cuve dirait qu'elle n'est pas remplie alors qu'elle est déjà remplie. Donc en quoi ce que vous faites, ça pourrait lutter contre un Stuxnet?
Donc en fait, Stuxnet est venu corrompre en fait l'automate qui gérait la loi de commande. Donc tout d'abord sur la control channel, avec l'algorithme par exemple qui aurait pu être, alors, en plus c'est un peu différent parce que là je présente sur un système à événement discret, tandis que Stuxnet c'est sur des vitesses de moteur, donc c'est du continu. Mais ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que dans le filtre, en fait, lorsqu'on parle de la vitesse, on définisse une zone de bon fonctionnement, et lorsqu'on sort de cette zone de fonctionnement, lever une alerte. Donc ça aurait permis de détecter qu'en tout cas il y avait des séquences de contrôle qui paraissaient bizarres. Sur la remontée d'informations qui est incorrecte, je suis d'accord avec vous sur le schéma que j'ai présenté dans ma présentation. Par contre, sur celui qui est présent juste ici, en fait, on vient placer le filtre en sortie des capteurs. Donc, en fait, on a l'état du capteur sur le procédé réel, qui, lui, du coup, ne peut pas être corrompu, sauf si à venir attaquer, alors à ce moment-là, physiquement le capteur. Dans le cas de Stuxnet, en fait, la donnée était correcte jusqu'à l'automate. Et en fait, c'est l'automate qui ensuite envoyait une fausse donnée au niveau 2.
Donc, vous mettez un boîtier inline entre les équipements?
Je mets le boîtier, le filtre, en sortie des capteurs, juste avant ou après, en fonction de si on parle du filtre de contrôle ou de compte-rendu, des entrées-sorties déportées, au plus proche des organes de commande ou de remontée d'informations.